Bonjour. De retour avec les chips de bonne friture pour une nouvelle émission sur le corps dans tous ses états.
Pour démarrer, un entretien croisé entre la jeune Emma et le capitaine Eno Kitano, suivi d'un témoignage de Spack 2000 qui partagera son vécu de cancéreuse à roulette.
Et pour se remettre de toutes ces émotions, on finira en toute sérénité au programme méditation suivi d'un petit exercice pratique. Alors, prévoyez d'être au calme d'ici 50 minutes.
Bienvenue à bord du vaisseau Kitano. Aujourd'hui, nous naviguerons sur l'océan des questionnements liés au corps. Chaque corps est une île, mais chacune de ses parties est-elle un rocher isolé dont on peut questionner l'existence, comme Brigitte Bardot dans Le Mépris ?
Je vois mes pieds dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolis ?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi ?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses ?
Aussi.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses?
Oui. Très.
Corps aimé, corps blessé, corps dans le décor, pantin articulé. Nous retrouvons Emma pour une interview croisée sur ces questions. Bonjour Emma!
Bonjour Eno Kitano.
Alors du coup, quelques questions liées au corps.
Ok.
Es-tu prête pour la première ?
Je suis prête.
Alors, es-tu à l'aise avec ton corps ?
Maintenant, je dirais que oui. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Après, je suis jeune aussi, j'ai que 24 ans, donc je pense que je sors d'une période où j'étais pas très à l'aise avec mon corps. Et je pense que maintenant ça va grâce au sport aussi, surtout beaucoup.
Du coup, à travers la pratique sportive, enfin, c'est pourquoi t'étais mal à l'aise ? C'était des questions de...
Je pense qu'il y avait une forme de un peu de dissociation pendant très longtemps de qu'est-ce que j'en fais en fait ? C'est bête, mais ouais, un peu, je sais pas quoi, trop quoi faire de moi-même, et ça passait aussi par le corps. Je sais pas trop quoi faire de ce corps. Je voyais qu'il y avait des gens qui en faisaient plein de trucs cool. Artistiquement, sportivement, et moi je crois que je savais pas trop. Je me sentais peut-être parfois un peu dissociée, et par le sport, par le yoga, par le surf, en me challengeant, en me performant sur des trucs, je crois que je me suis vachement réappropriée mon corps, et que du coup je me suis sentie de plus en plus à l'aise avec lui, et capable de faire des trucs, et capable d'avancer, et ouais.
Et ce sentiment de réappropriation, il passe par quelles sensations ?
Il passe par des sensations de dépassement, de moments désagréables dans le sport, je pense, de trouver des endroits où c'est dur, et en fait on dépasse le moment où c'est dur parce que corporellement c'est dur et qu'il faut aller au-delà des limites qu'on pensait avoir. Et du coup c'est un truc de dépassement de la limite qu'on pensait qu'était la nôtre. Et du coup, à cet endroit-là, on trouve ses capacités, je pense, au niveau de son corps. Et,
Alors, j'ai une seconde question un peu plus ténébreuse.
Ok.
As-tu des angoisses en rapport avec ton corps ?
Ouais, beaucoup. J'ai très peur de la douleur physique, énormément. Je pense que personne n'a envie d'avoir mal, c'est un truc... Enfin voilà, personne n'a envie d'avoir mal, je pense. Mais alors moi, c'est vraiment un truc très très ancré. Je le vois parce que du coup, je surfe et on se fait pas très mal en surf. Enfin, on peut boire la tasse, on peut... voilà. Mais c'est pas des gros chocs. Et le skate, qui est censé être un sport un peu accessible pour les gens qui ont l'habitude de surfer, etc., même si c'est pas la même chose, c'est une catastrophe. Parce que j'ai vraiment peur de ce truc de blesser mon corps. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas du tout à dépasser. J'ai très très peur de me couper, de me faire mal, C'est une grosse angoisse et je pense qu'il y a plein de trucs que je fais pas parce que... Ouais, parce que j'ai peur de le blesser, en fait, ce corps, de lui mettre des coups et des entailles, ouais, énormément.
Et t'as déjà subi, du coup, des blessures liées à une activité comme ça?
Bah non, jamais trop. C'est ça qui est drôle, moi aussi. Tout à l'heure, rien qu'avec mon frère, quand on est parti skater, je me suis posé la question, justement, de me dire, mais en fait, comme si ça partait d'un traumatisme, d'un choc ou d'un truc. Et en fait, pas que je me souvienne. Enfin, je sais que j'étais hyper aventureuse quand j'étais petite. Je faisais des trucs complètement déraisonnables. Je montais hyper haut dans les arbres, dans les machins. J'allais... Et je me faisais d'ailleurs souvent mal, et c'était pas du tout un problème. Je me relevais, j'étais complètement écorchée, il y avait aucun souci. Et ça vient de rien. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à savoir d'où ça vient, mais c'est venu avec le temps, cette peur de me blesser, de me faire mal, et même un truc hyper angoissant, quoi. Mmh. Alors qu'il n'y a pas eu d'événement, enfin, en tout cas, pas d'événement dont je me souvienne.
Toi, du coup, ça prend source dans ton corps ou dans ton esprit? Enfin, c'est comment...
Ça prend source dans mon corps, c'est vraiment un truc de... je me fige, quoi. C'est même pas trop dans mon esprit, parce que je pense qu'il y a un truc un peu... bon, si je me blesse, je sais très bien que ça va aller. C'est vraiment un truc de mon corps lui-même, il se fige comme s'il réagissait en avance à un truc qui pourrait arriver, quoi.
Et tu vois à quel âge ça s'est mis en place, cette...
À l'adolescence.
Et c'est
complètement lié, avec l'adolescence, ouais. Parce que jusqu'à ce que j'arrive dans ma crise d'ado, c'était voilà, ce truc où j'étais complètement libre et où je faisais vraiment n'importe quoi, à me faire vraiment mal. Je prenais des vagues à la boule de 4 mètres de haut. Dominique, elle le dit. Ouais, je prenais des trucs de 4 mètres de haut. J'étais toute petite avec ma planche de body. Je me faisais rouler, mais un truc de fifou. Et j'y retournais avec le sourire, quoi. Et maintenant, j'ai vraiment ce truc de protection. De, je vais pas y aller, je vais me faire mal. Et je pense que c'est venu avec l'adolescence. Enfin, moi, je vois ce moment-là.
Adolescence, tu situes à quel âge, du coup?
Moi, je le situe à partir de 12-13 ans jusqu'à 18, quoi.
Mmh. Mmh. Tu te souviens de la première fois où tu t'es dit « Non, j'y vais pas, je vais me faire mal ?»
Non, parce que je pense qu'il y a eu une grosse période où je faisais... Je faisais pas grand-chose vers l'extérieur, où j'étais très renfermée sur moi. Et du coup, c'est peut-être lié d'ailleurs, mais je suis rentrée dans cette période où j'étais très renfermée sur moi, je passais beaucoup de temps toute seule, je voulais pas aller vers les autres, je voulais pas faire du sport, etc. Et en fait, sortie de cette période-là, ça a commencé...
Dernière question, plus ouais. Sur le rapport aux autres. Et du coup, la question c'est, ton corps est-il un enjeu dans tes rapports avec les autres?
Ouais, je pense toujours dans cette capacité d'en faire quelque chose. Comme si je devais montrer que j'avais appris à faire des trucs avec mon corps qui ont un intérêt ou qui ont un sens ou qui sont stylés ou qui... Ouais, toujours dans ce truc-là et du coup, dans un truc un peu de performance. Moi, je sais que le sport, par exemple, c'est un truc que j'aime faire toute seule et dès que je me compare aux autres, ça devient compliqué. J'aime pas ce truc de me rendre compte que je suis peut-être moins bonne que les autres ou que j'arrive pas à faire tel truc, alors que vis-à-vis de moi-même, c'est OK. J'accepte d'avoir des limites au niveau de mon corps complètement. C'est pas du tout un truc qui m'angoisse ou que j'ai du mal. Voilà, je sais que ça se dépasse avec le temps, avec du travail, si j'en ai envie. Sinon, c'est OK d'avoir des limites. Mais ouais, toujours dans ce truc du sport, j'ai énormément de mal avec le fait de pas réussir des trucs que les autres arrivent à faire. Ouais.
Et sur les questions, on va dire plutôt moins performatives et sportives, mais plus sur la question narcissisme et apparence et représentation de soi. Est-ce que, du coup, ton corps, c'est un enjeu, dans ton rapport aux autres, dans, on va dire, la séduction, dans le à te comparer aux autres en termes d'apparence, de beauté, de style, enfin...
Ouais. Bah, c'est un enjeu, mais plutôt un enjeu positif, je pense. J'ai la chance d'être fine, grande, et ce qu'on demande aux meufs à l'heure actuelle, en fait. Et à rentrer dans les standards de beauté, parce que c'est, pour moi, c'est une question de ça, la beauté, hein. C'est une question de période et de standards en fonction des périodes. Et j'ai la chance, actuellement, dans l'ère dans laquelle je vis, moi, de rentrer dans les standards de beauté. Donc j'avoue que ça a toujours été un truc plutôt facilitant. J'ai toujours plu aux mecs, ça a toujours été un truc hyper... Enfin, dans mon rapport aux autres, au niveau d'un truc très physique, très... Enfin voilà, très dans l'image, on va dire. Ça n'a pas été un enjeu de difficulté, en tout cas. C'est pas quelque chose qui m'a jamais posé problème. Au contraire, c'est plutôt quelque chose où je me dis... Moi, je sais que j'ai des facilités à trouver un taf, parce qu'en fait, je suis plutôt jolie, je présente bien. Donc, c'est plutôt un truc, un enjeu positif pour moi, et dont, sur lequel je peux même m'appuyer parfois en me disant, parce que mine de rien, ça joue dans la société dans laquelle on est, ça joue énormément l'apparence. Et moi, je sais que par l'apparence, ça, j'ai juste à sourire gentiment au monsieur et à la dame, et ça passe tout seul des fois, et du coup, c'est plutôt un enjeu positif.
Et du coup, toi, le fait que tu sois à l'aise avec ça et que tu aies plutôt des retours qui te portent ou qui sont encourageants, et est-ce que ça a participé un petit peu à une forme de construction de ta confiance? Et est-ce que tu penses que si tu étais privé justement de cette forme de peut-être de plaire et d'avoir ça peut-être correspondre du coup comme tu dis au canon, est-ce que ça jouerait sur aussi ton psychisme?
Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, là, je le vois depuis que moi je sors plutôt avec des filles et plus avec des garçons. Les filles, elles sont moins dans l'apparence. Enfin, c'est bête, mais c'est très vrai. Enfin, c'est beaucoup plus facile de plaire à un mec juste en utilisant l'apparence et en souriant et en ayant 2-3 points en commun, qu'une meuf, elle va aller chercher beaucoup plus loin que ça, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai jusqu'à maintenant. Et c'est marrant, mais du coup, j'ai beaucoup moins confiance en moi. Donc oui, le fait d'avoir pu m'appuyer sur le corps, ça me facilitait énormément la vie. Là où du coup, avec les meufs, c'est plus du tout la même chose. Et où j'ai perdu en confiance en moi, je le vois bien. Parce que, enfin oui, je suis jolie, ok, c'est cool. Mais en fait, ça suffira jamais pour plaire à une meuf. Et heureusement, et c'est chouette aussi. Mais du coup, ouais, j'ai perdu confiance en moi. Ouais. Du coup, maintenant, on va faire un petit changement de rôle. Et on va passer à l'interview de monsieur Enoki Tano.
Oh là là, ça fait tellement peur. Je suis prêt. Passez-moi au grill.
Ok. Alors du coup, monsieur, quel est ton rapport à ton corps?
C'est un petit peu comme ma maison, j'habite dedans. J'aime bien la métaphore marine, c'est du navire, tout ça. Vaisseau Kitano, pop. dans le sens où il faut prendre soin de son corps. C'est la seule chose qui supporte ta vie, quoi. Si tu fous en l'air ton corps, t'es dans la merde. Et du coup, c'est un petit peu ton capital, quoi. Ton vrai capital, en fait, dans cette existence. Et c'est lui qui te permet de tout faire, te nourrir, te courir, marcher, jouer de la guitare. Et du coup, c'est quelque chose dont j'essaie de prendre de soin et de ménager.
Et t'estimes que t'en as toujours pris soin? Ou est-ce que t'estimes qu'il y a eu un moment dans ta vie où t'as commencé à en prendre soin, ou ça a toujours été le cas?
Je pense qu'il y a des moments de ma vie où j'étais dans des périodes d'addiction, beaucoup, et beaucoup par rapport à l'alcool. Je crois que j'ai aussi une forme de... Sans doute quand j'étais jeune, j'avais une forme de boulimie ou un truc comme ça. Enfin, je bouffais beaucoup. Je mange toujours beaucoup, mais j'ai tendance à essayer de manger moins. Même si j'ai jamais été vraiment en surpoids.
Et puis tu il n'y avait pas d'histoire de te faire vomir ou des choses comme ça?
Ah non, pas du tout, non, mais tu vois, enfin c'est...
À manger un peu à l'extrême.
Non, ouais, c'est manger beaucoup, ouais. Toujours, tu vois, se resservir deux fois, trois fois. Et il y avait un côté, moi j'avais une famille, on était assez nombreux en tant qu'enfants, et il y avait un petit côté de, je sais pas, c'est peut-être la peur de manquer, et je pense que c'est peut-être lié à la position au sein de la famille. Au fait de faire plaisir aussi aux grand-mères, il fallait manger. Et peut-être une forme de... Tu dilates ton estomac, tes machins, et après, tu as tout ce système de toujours avoir faim. En fait, j'ai appris tard à essayer de diminuer un peu mes doses de nourriture. Et voilà, et du coup, ça a abîmé mon corps, ça, plus l'alcool, l'addiction. Je pense les périodes où je fumais du cannabis aussi à haute dose, ça a dû laisser quelques séquelles un petit peu à certains endroits. Et aujourd'hui, je peux avoir des à l'arrivée à la quarantaine, j'ai des petits problèmes de santé qui ont fait que j'ai réduit au fur et à mesure de mon existence à différentes étapes de ma vie. Et aujourd'hui, là, je suis sur une période
faste. Diète, non?
Ouais. Ah oui, là, aujourd'hui, je suis dans un truc
avec
où...
les soupes. La bonne souplette.
Bah ouais, j'ai quand même... Tu vois, j'ai arrêté le beurre des fois dans ma vie. Là, en ce moment, je fais plein de gâteaux d'apéro, de charcuterie, je mange plus ça. Je bois depuis... ça fait 4 ans peut-être maintenant que je bois beaucoup beaucoup moins d'alcool, voire plus du tout d'alcool maintenant. Là j'ai arrêté le tabac depuis quelques mois. Enfin voilà, enfin, j'ai tendance à aller vers un truc où je fais attention. Voilà, j'ai envie de préserver, de vivre en bonne santé. Et puis il y a des choses que j'aime bien faire avec mon corps qui sont liées au fait de pas faire trop de bêtises. Donc, voilà.
Et t'es satisfait actuellement de la manière dont toi-même tu traites ton propre corps ?
Pas vraiment, parce que je crois que j'ai un quelque chose qui est très somatique en termes d'angoisse. J'ai un fond peut-être angoissé, un fond stressé. Et je m'engage dans plein de choses. J'ai du mal à dire non aux sollicitations. À chaque fois qu'on me demande quelque chose, ça c'est comme aussi le type freudien de toute demande est une demande d'amour. Alors, tu sais, je suis là, je suis bon, si on me demande quelque chose, faut que je dise oui, faut que je sois présent, faut que je n'en toutes les choses. Et après, je me retrouve avec 15 assiettes à jongler. Et après, je suis là, j'ai envie de tout envoyer valser. Je fais c'est trop. Et du coup, ça me stresse. Ça joue sur mes problèmes de santé, ça joue sur plein de choses, ça joue sur mon sommeil, ça joue sur ma vie, quoi. Et je me dis qu'il faut que j'apprenne. C'est mes grandes ambitions. Apprendre à mieux cerner, à moins en prendre et à dire non, des fois. Parce que j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais complètement ermite. J'avais coupé les ponts avec beaucoup, beaucoup le monde extérieur, où je voyais juste à 2-3 personnes et où j'ai vécu des moments assez intenses de calme. Et maintenant que je suis dans un monde très agité, des fois ça me manque.
Ouais. C'est normal.
Forcément.
Et alors du coup, deuxième question, comment est-ce que tu penses ton corps ? Bon, t'as un peu répondu, tu disais que tu le pensais un peu comme un navire, un truc que tu occupais. Est-ce que tu le penses seulement comme ça, ou est-ce que pour toi il y a une autre dimension ?
Je sais que je suis mon corps. Je suis pas le passager de mon corps, effectivement. C'est bizarre parce que vu qu'on est dans notre tête et qu'on est notre esprit, enfin, quelque part, je sais pas dire qu'on est notre psychisme et qu'on voit par nos yeux, on a tendance à penser qu'on est dans notre tête. Et c'est vraiment ce piège un petit peu, la représentation qui est assez importante. Et je trouve ça très intéressant en fait, au-delà de ma représentation. Hein. La manière dont on conçoit de plus en plus le corps, la vie, avec tout ce qui va être le côté symbiotique, micro-organismes qui vivent avec nous, la manière dont les cellules en fait, qui nous composent ont chacune des spécificités, fonctionnent. On utilise toujours la métaphore un peu peut-être de la machine, quoi, alors que peut-être, justement, c'est un organisme avec plein de petites cellules qui fonctionnent quasiment comme des organismes indépendants avec des tâches spécifiques qui assurent tout un. Effectivement, la vie en elle-même et le corps, c'est quelque chose de magique. C'est incroyable. Et je pense qu'en plus, on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on appelle l'esprit, le psychisme et tout est relié au fonctionnement organique. Et on s'en aperçoit de plus en plus, je crois. Et t'as pas mal de gens qui essaient de le sentir, de le réfléchir. Et après, il y a quelque chose dans le lien avec les autres, avec ce côté-là génétique qui est de la folie aussi, quoi, dans le sens où penser que je suis une cellule de ma mère et une cellule de mon père qui ont fusionné pour produire du coup c'est ce côté-là aussi de mon corps. Du coup, en fait, c'est ça. Hein. C'est deux cellules, deux individus qui m'ont formé, qui a fait que j'ai poussé, que je suis devenu un être humain adulte de 42 ans bientôt. Wow, c'est incroyable. Et du coup, il y a la question du fil génétique, la question de qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est cette chose, ce corps éternel en fait, qui passe son temps à pousser, à repousser, avec effectivement moi en tant qu'individu, je suis un des maillons d'une chaîne de vivante, d'une multitude de corps, et du coup je suis forcément un descendant de plein d'autres corps qui ont existé avant moi.
Ouais. C'était très intéressant et très complet comme réponse. Et du coup, tu m'as un peu niqué ma question du rapport entre le corps et l'esprit.
Mince.
Ok, à laquelle tu as déjà répondu.
Ah bon ?
Mais du coup, moi, j'aimerais t'en poser une autre, parce qu'en yoga, on parle beaucoup de l'énergie donc qu'habite notre propre corps et du fait qu'elle a le moyen de rayonner autour de nous et que d'une manière générale, c'est aussi à nous de cultiver ce qu'on a envie de cultiver à l'intérieur de nous pour que ça puisse rayonner autour de nous. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens ? Ou pas du tout ? Et toi, t'es vraiment à l'intérieur de ton corps et...
Moi, j'aime bien les idées d'énergie. Je pense que j'étais très sensible à au questionnement comme ça. Je suis très intéressé par le chamanisme, par des visions un peu comme ça de pensée magique. Il y a des choses comme ça un petit peu aussi sur la question de l'influence de la psyché sur la vie et tout ça. Et je crois vraiment, oui, qu'on fait un travail extrêmement important tout au long de notre vie sur notre personnalité et du coup forcément sur notre corps, en fait, dans une pratique un petit peu de s'observer fonctionner. Et je crois qu'il y a quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaît, on apprend notre corps, on découvre notre corps, on dit souvent quand on est enfant, et puis le corps de l'autre aussi, c'est dans le sens où, moi je me souviens, j'étais enfant, j'ai été rapidement dans des découvertes quasi physiques, sexuelles, avec d'autres enfants. Alors je sais qu'après c'est des choses, avec des enfants de mon âge bien évidemment, dans ce qui se passe dans la cour d'école, de se montrer les organes génitaux, de faire « oh, là, là, là. » les jeux, on va dire, à connotation érotique, mais en fait moi je me souviens très jeune enfant de ce rapport là de cette découverte du corps, de forme d'avidité là dessus sur la question de ce qui se passait dans les sous-vêtements, et ça me met des enjeux très importants et également très très énergétiques, le fait d'avoir toute la pensée focalisée sur ces moments de découverte, ces choses-là pulsionnelles, quand t'es enfant, super intense, c'est très très fort, il se passe tellement de choses, c'est tellement prenant, t'arrives pas du tout, je trouve, à te décrocher en fait des choses, quoi. Tu tiens le guidon, t'es complètement pris dedans, et je trouve que moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes dans ma vie, des adultes et des amis, qui m'ont permis de grandir, de me détacher de ma pulsion aussi, de m'observer, de réfléchir à mes comportements, de prendre, on va dire, du recul, de modifier plein de choses, faire un travail sur moi-même qui m'a pris, qui me prend toute ma vie. Aujourd'hui, je suis pas l'impression d'être fini, j'ai l'impression d'être toujours en travail et peut-être toujours dans la réflexion sur mon comportement, sur ma pulsion, sur mes désirs, sur des choses comme ça qu'il faut réussir à exprimer, à trouver des réponses, des aboutissements. Comme un petit peu, moi j'ai une métaphore là-dessus sur la pulsion, l'émotion, pour utiliser des parallèles avec l'énergie, c'est que pour moi c'est comme de l'eau.
Ouais,
et en fait c'est quelque chose, c'est des choses, ouais, c'est des choses qui nous traversent, qui sont comme des courants en fait qui sont en nous. Et en fait les stratégies de barrage, c'est des stratégies qui fonctionnent en général assez mal, parce qu'en fait ça bloque les émotions, ça bloque des choses, le non-dit qui force en fait les choses à rester à l'intérieur du psychisme, du corps. Et en fait, je pense qu'il faut réussir beaucoup plus à canaliser, à trouver la manière de construire des circuits d'expression de la pulsion, de la peur, aussi des circuits de la joie, du plaisir. Et petit à petit, comme ça, en recherchant, en cartographiant et en trouvant les moyens d'expression de son corps et de son... cette chose animale qui est nous, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des formes d'équilibre et ce qu'on pourrait dire, une forme de bonheur.
Très bonne conclusion. Merci monsieur Enokitano.
Plaisir, et vraiment c'était super. On rend l'antenne, bravo à vous les studios. Et on se retrouve avec la suite des programmes juste après une petite page de musique. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
À mes seins. À mes seins, ma poitrine, mes avant-cœurs, mes nibards, mes nénés, je suis venu vous dire que je m'en vais. Sur l'autel de la vie, vous êtes sacrifiés, et mes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien ma chire, de deux perdus, de deux retrouvés, parce qu'aujourd'hui, on vous reconstruit dans la foulée. Le verdict est tombé le 6 février dernier. Porteuse du gène familial dégénérescent, le BRCA1 de type 1. Le plus agressif. Parce qu'il y a plusieurs types. Et bien sûr, c'est sur ce putain de sale type que je suis tombée. Le plus mauvais. Le genre qui tue. Qui donne 80% de chance de développer un cancer du sein dans les années à venir. Celui-là vient de la branche paternelle, l'héritage du père qui attaque mes attributs féminins, les uns après les autres. Il est là, le crabe, dans mon corps, en dormance, en embuscade, il attend. Mais jusqu'à quand? Faut que je le prenne de vitesse. Deux solutions. La première, c'est la perpète des contrôles. Tous les 6 mois, IRM plus échographie, sans parler du stress permanent qui me fait déjà développer des douleurs somatiques régulières. Ou la deuxième, la solution radicale, ablation-reconstruction en une seule opération. Ma chirurgienne me conseille sans hésiter cette seconde option, l'amputation. J'ai 44 ans et c'est la merde. Je vais finir complètement démembré. J'ai envie de me tirer. Après l'amputation de mon utérus entier, puis de mes ovaires l'année passée, c'est au tour de mes nibards de sauter de ce corps sexisé. Bientôt de mes organes génitaux qui définissent mon identité cis, il ne restera qu'un vagin isolé et solitaire, un peu perdu sans ses autres compères. J'en perds mes repères. Mais paraît que c'est comme ça qu'on gagne sa guerre. Contre ce mal qui a dit « Tu meurs ». La politique de la terre brûlée. Mon corps est un champ de bataille. Vite, tout retirer avant la contamination généralisée menant à l'extinction totale. La course contre la mort est à nouveau lancée. Les opérations ont démarré il y a 1 an et demi. Le processus d'extraction, protection, reconstruction est loin d'être fini. Maintenant, faut anticiper la prochaine tumeur à venir et les nouvelles modifications corporelles qu'elle va engendrer. Pensez le changement, car il n'y a plus beaucoup de temps. Je le sens. J'ai peur. Peur que ça revienne. Pour ça que je suis prête à valider l'amputation prochaine de mes 2 organes mammaires toujours sains, pour échapper à ce destin. Le sacro-saint sacrifice. Passage obligé de la mort à la vie, chuanté par ces conneries christiques et l'apocalypse. sacrifier des morceaux de moi pour éviter l'enfer. Parce que ouais, le cancer, c'est l'enfer sur terre. Un combat personnel et solitaire qui prend tout. Et même quand l'entourage te donne, tu reçois rien. Au début, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'étais renversée, secouée, dans tout mon corps, un vertige permanent, terrifiant. Comme les rouleaux de l'océan, je me sentais emportée. La nuit, je gémissais. Et comme une bête traquée, blessée, je me suis terrée. Je me suis débattue. J'ai combattu. Et j'ai été soutenue. Je sais que je suis une cancéreuse chanceuse. J'ai évité la chimio et les lasers. Mais ça reste tellement amer. Vivre avec un corps en chantier depuis le 6 octobre 2021, et pour combien de temps encore? Attendre, apprendre à gérer les émotions en éruption, colère, tristesse, peur, panique. Heureusement, il y a de l'espoir, mais j'attends toujours la lumière au bout du couloir. Accepter et se mettre en lutte, accepter le temps long du combat, trouver des bons accompagnants, et des médecins qui sont des alliés, vivre sa lutte et continuer de vivre sa vie, porter ses nouvelles valises et se répéter qu'on va y arriver, parce qu'on doit y arriver, quel autre choix. Parce que la vie vaut quand même le coup. Parce que même dans ce monde de merde, même quand on est dans le brouillard, ça vaut toujours le coup. Attendre la lumière au bout de ce foutu couloir. Et continuer d'y croire. Je vois les visages des gens que j'aime, ceux dans ma vie depuis longtemps, mes amis, mes copines, ma famille, et Bianca, ma nièce, la seule, née un mois avant ma première opération, cette vie qui a éclos quand on enlevait ma petite mort. J'écris pour continuer d'y croire, pour que la vie me garde encore. La nuit, tous les chats sont gris, et mes rêves aussi. Alors je fume, c'est ma béquille contre les médocs que je veux pas prendre. J'ai trop un terrain d'addict. Je sais que je vais en abuser, je l'ai déjà fait, je me connais. Et ça aussi, ça me fait peur. Et ces médecins qui me les proposent régulièrement, ça vous aidera à mieux dormir pendant un temps. Je dis non à chaque fois. Et je leur explique. Je préfère pratiquer ma réduction des risques. Et je leur dis que je fume. Ouais, je préfère fumer. Et mon petit cerveau reptilien, celui qui drive mes émotions, reçoit sa dose chaque soir. Il s'apaise d'une lucidité qui me met mal à l'aise. Je crois voir clair dans le jeu de cette vie et de celle que je veux continuer à construire. Cette vie est tellement brutale. J'affronte au corps à corps cette maladie. Je voudrais la fuir. Je voudrais fuir mon corps. Il m'a trahi. Ma tête et mon corps se font la guerre. Rupture de communication. On ne se comprend plus. On ne se connecte plus. On se tourne le dos. On parle plus le même langage. Personne ne reconnaît les signaux. Sensations inconnues. Commandes qui ne répondent plus. Dissociation. Je voudrais prendre mes jambes à mon cou. Mais je vais lui rendre coup pour coup. Sur ce terrain, pas de victoire. La sentence sera sans appel. La délivrance passera par le scalpel. Chaque jour, ma réalité est un cauchemar. J'ai mal partout. Je suis mal partout. Je suis si fatiguée. Physiquement, moralement. Je suis si triste. En colère aussi. L'émotion volcanique me permet de tenir debout, de me lever, chaque jour, jour après jour. J'attends. Le temps est suspendu depuis l'annonce fatale. J'attends les jours meilleurs. Ma vie ne tourne plus autour que d'un seul prisme. Cette petite mort en moi qui voudrait grandir. Je suis cancéreuse. J'ai envie de me faire un t-shirt. Je peux pas, j'ai cancer. Le médecin m'a mise en arrêt maladie pour affection longue durée. je suis en ALD. Soins remboursés à 100%. Mais je n'ai plus droit qu'à 50% de mes indemnités brutes chômage. Donc, plus de quoi me loger seul. Il n'y a pas que mon corps que ce cancer mutile. Mon compte en banque y passe aussi. Merci les lois de la République. Et vive l'insécurité organisée contre ceux qui ne sont rien. Bah oui, tu produis plus, alors tu sers à rien. T'es devenu une charge aux frais de la société. À l'insécurité du corps et de la santé s'ajoute celle de la thune. J'en peux plus. Je flippe. Alors, ben, t'as qu'à compter sur la solidarité citoyenne, ta famille, tes amis, ta meuf ou ton mec. Et il vaut mieux pour toi que tu sois bien entouré. La situation de nos hôpitaux publics me met aussi en colère. Chaque fois, je monte en l'air. Sans parler du pass sanitaire qu'on exigeait encore il y a quelque temps. Je voudrais cracher du feu. Je me sens enflammée. Ma chire m'a dit « La tumeur crée une inflammation dans tout votre corps. » Elle croit pas si bien dire. Je suis en angoisse perpétuelle. Pas une pensée ni une action qui ne me ramène à cette réalité. C'est pas virtuel. C'est violent et récurrent. Je suis choquée. Ça déborde de tous mes pores. J'ai l'impression que je pue. Pourquoi moi? Pourquoi dans l'utérus? Des fois j'ai honte. Je me sens rejetée par la vie. Punie. Je me fais des phrases effrayantes qui me jettent dans une torpeur terrifiante la nuit. Je me sens persécutée jusque dans l'intérieur. La maladie s'est déclarée quand mes cellules ont commencé à bugger, à dégénérer rapidement. Mais qu'est-ce qui a tout déclenché? Des questions qui resteront sans réponse. Juste des intuitions et mes convictions bien profondes. Aucune douleur suffisamment forte pour me mettre la puce à l'oreille. Juste des tiraillements, des saignements, des mycoses à répétition, une fatigue profonde. J'ai pas entendu tous ces petits cris d'alarme de mon corps. La chirurgienne et l'oncogénéticien ont demandé « Mais... qu'est-ce qui s'est passé cette année ?» Ben, j'ai été licenciée. C'est sûr que je l'ai vécu comme une injustice terrible. D'ailleurs, j'en ai fait des manifestations et j'ai attaqué l'employeur en justice. Puis, à cette même période, j'étais en PMA. Alors, je gardais encore un espoir enfoui. Et 8 mois plus tard, la gynéco annonçait froidement le cataclysme. « Madame, vous avez un cancer de l'utérus. » Tout est programmé, on vous opère le 6 octobre prochain. Ce qui avait pris vie à l'intérieur, en fait, ben, c'était une tumeur. Choc, désespoir, cauchemar, la dure réalité. Fallait tout enlever, utérus et ovaire. Il n'y aurait donc jamais de bébé, et j'allais devenir ménopausée. Annonce brutale, pas le temps de se retourner. Tout s'accélère. Tout s'accélère et prend fin. Rendez-vous, examen, IRM, échographie, prise de sang, protocole, programmation des opérations, amputation 1, utérus, amputation 2, ovaire, cicatrisation, cicatrice, peau marquée, trait tiré, hormone en gel à se tartiner chaque matin sur les avant-bras. Tout a bougé à l'intérieur. La vessie qui reposait sur l'utérus disparu a pris une autre place. Les viscères et l'intestin se sont frayés un autre chemin. Les sensations pour pisser, chier, faire l'amour ne sont plus les mêmes qu'avant. Je me souviens encore de mon corps et de mes sensations d'avant. Même mes règles me manquent. Je suis nostalgique, mélancolique. De ce temps où je pensais que tout allait mieux. De ce temps où j'avais toujours mon bon vieux corps pour me sauver. On se connaissait. À 43 ans, j'ai fait des nouvelles rencontres, des nouveaux ennemis, un corps différent et des nouvelles peurs. Mais c'est vrai, oui, le corps s'adapte et se renouvelle. Et même si je me prépare à la troisième amputation, celle de mes petits seins, je vais mieux. Ouais, je vais mieux. J'accepte. Mes proches et ma nièce, ma lumière, m'ont permis d'avancer et de me sentir accompagnée. Je me sens aimée. Et ça tient tout. Je ressors du fossé. En un peu plus d'un an, j'ai réussi à continuer ma vie avec ce nouveau corps mutilé, amputé, cicatrisé et réparé. Et grâce au roller derby, ma tête et mon corps refont équipe. Le cœur suit, petit à petit. Je veux refaire confiance et aimer ce corps bousillé. Ma tête et mon cœur doivent pardonner. La psy me coach, le kiné m'accompagne, l'acupunctrice me soulage et d'autres encore me font tant de bien. Je développe un imaginaire libérateur pour ouvrir les autres portes de ma vie. Je suis la même et une autre. Je suis l'inspecteur Gadget qui mène son enquête intérieure, cherche et écrit. Et je ressens Gali, cette héroïne cyborg qui prend place, veut faire corps. Je suis ma métamorphose. Bientôt, je serai apaisé et mes organes remplacés. La vie continue et la lutte aussi. Ma seule victoire tient dans le combat.
Depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables, y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques, ils s'en ébouffaient. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison, quoi qu'il advienne.
De la raison, j'ai perdu la tête. Ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
Nous venons d'écouter la chanson « Corps » de la chanteuse Iseult. On laisse maintenant la parole à Béa, Titude, pour sa petite contribution sur la méditation qui sera suivie d'une mini-séance guidée par Jonathan Lehmann. Jonathan, si tu nous écoutes, merci à toi. C'est donc le moment de vous installer confortablement.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de méditation. La méditation, c'est d'abord une pratique millénaire qui est née en Inde il y a plus de 5000 ans et qui s'adresse à tous, y compris aux jeunes enfants. Il me semblait surtout que dans ces temps troubles et troublés, où il y a pas mal de copains, copines dans le milieu militant, mais même au-delà, qui sont sur des questionnements en ce moment de comment prendre soin les uns des autres. Et il me semblait que la méditation pouvait être un outil intéressant pour répondre à ça. C'est pas le seul, évidemment. Donc, méditer, c'est quoi, en fait? Parce que moi, j'ai une petite pratique de la méditation, mais avant de commencer, il me semblait que c'était un truc un peu... ça me semblait confus, en fait. Je pensais que c'était surtout apprendre à faire le vide dans son cerveau. Et en fait, c'est plutôt se concentrer sur le moment présent. Donc se concentrer, ça peut être sur sa respiration, sur ses sensations corporelles ou même sur ses émotions. Et tout ça sans jugement de valeur. Et de manière générale, ça améliore l'humeur et le bien-être psychologique. Alors plus précisément, il y a des bienfaits qui ont été reconnus scientifiquement à la méditation. Il y a vraiment pas mal d'études qui ont été faites sur la question, avec des diodes là, sur le cerveau pour enregistrer son fonctionnement pendant que les gens méditent. Et donc il en est ressorti que la méditation réduit le stress, l'anxiété et la dépression par la sécrétion de cortisol, qui est aussi appelée l'hormone du stress. Ça améliore également les fonctions cognitives, dont l'attention et l'augmentation de la capacité de concentration. Ça se fait par l'accroissement de quantité de matière grise dans les zones impliquées pour l'apprentissage, la mémoire et le contrôle des émotions. Et donc, du coup, la méditation renforce la mémoire. Elle diminue aussi la pression sanguine et donc les risques de crise cardiaque, d'AVC, tout ça. Elle favorise l'immunité par l'action sur les gènes pro-inflammatoires. La méditation réduit les douleurs. Par exemple, les personnes aguerries à la méditation ont des réponses cérébrales à la douleur qui sont inférieures de 40 à 50% aux personnes qui ne pratiquent pas la méditation. Ça peut également être une aide contre l'insomnie. Voilà, ça permet, la méditation permet de positiver, de se libérer des ruminations négatives qui nous empêchent d'avancer. Méditer, c'est également s'entraîner à maintenir son attention et empêcher son esprit de se laisser emporter par les pensées qui surgissent sans arrêt et dont notre cerveau est un grand spécialiste. Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste de la méditation. J'ai une pratique personnelle depuis 4-5 ans. Moi, je pratique avec des méditations guidées. Alors, j'en ai trouvé, il y en a plein sur Internet. Allez fouiller, vous en trouverez plein. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien les méditations guidées de Jonathan Lehman, parce que je trouve qu'il a un timbre de voix naturel, et j'aime pas trop là quand ça veut nous emmener un peu de façon forcée dans des trucs mystiques ou je sais pas trop quoi. Enfin, en tout cas, ça me perturbe plus qu'autre chose, ça m'empêche un peu de me concentrer. Mais sinon, c'est une activité qu'on peut faire seul. Il suffit en fait de se concentrer sur sa respiration. Alors vous verrez que des fois on a tendance à divaguer, mais c'est normal, il faut juste revenir à sa respiration et reprendre le cours de sa méditation comme ça. Voilà, et l'autre fois j'entendais un cuisinier adepte de la méditation qui disait que parfois lui médite tout simplement en se lavant les mains. Voilà, ça peut être en mangeant, ça peut se pratiquer debout, assis, allongé, en marchant, les yeux ouverts ou fermés. Enfin voilà, c'est en fait la méditation, c'est vraiment juste se concentrer sur l'instant présent. La méditation favorise la santé émotionnelle, elle améliore l'image et l'estime de soi. On a une vision plus optimiste de la vie. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là en particulier que j'ai vu progresser chez moi. Voilà, et 10-15 minutes par jour suffisent à voir les bénéfices de la méditation. Voilà, alors n'hésitez pas à méditer. C'est vraiment une activité très simple, vraiment abordable, qu'on peut pratiquer seul ou à plusieurs, qui ne nécessite aucun équipement particulier. Et on en voit les bénéfices assez rapidement, au bout d'une dizaine de jours. Bref, je la conseille à toutes et à tous. Bonne méditation.
Le but de cette mini-méditation est de faire un pas en arrière par rapport aux pensées et aux émotions qui t'agitent pour te calmer et te remettre dans l'ici et maintenant. Ferme les yeux et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Et donc plus lentement. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de ton corps. Ici et maintenant, tu n'as rien d'autre à faire qu'observer ta respiration. Elle se passe sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de tes narines. Si tu es pris par des pensées, c'est tout à fait normal. Quand tu t'en rends compte, laisse-les filer en ramenant ton attention à la sensation de l'air qui touche tes narines. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration, de telle sorte qu'elles deviennent comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince, ta respiration de plus en plus lente. Sans te juger, essaye d'examiner ton humeur de plus près, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Tout en restant concentré sur ta respiration, on va maintenant se concentrer sur trois principes anti-stress. Je ne peux ni changer le passé, ni prédire le futur. Je peux simplement faire de mon mieux ici et maintenant. Je fais confiance à la vie et je suis reconnaissant de tout ce que j'ai et que j'ai tendance à prendre pour acquis. J'accepte de ne pas tout savoir et je prends la vie moment par moment. L'enregistrement va bientôt terminer, mais tu peux continuer encore quelques instants par toi-même, en te concentrant sur ta respiration, le temps de sentir que l'agitation s'est calmée. J'espère que cette mini-méditation t'a été apaisante. À bientôt.
On ressort de cette bulle de méditation apaisée pour reprendre le cours de nos activités. Nous, on vous quitte là. À dans 2 mois. Pour le prochain bain de friture, à bientôt sur les ondes.